Alors, pour aujourd'hui, on va voir ce que je vous avais dit la dernière fois, c'est on avait vu le centre fermé et toutes les lentes manœuvres que ça génère, tous ces centres de pions bloqués. Donc, en fait, on avait vu la dernière fois le centre fermé et toutes les lentes manœuvres que ça génère et le fait que les pions. On a beaucoup besoin des pions dans un centre fermé pour ouvrir des colonnes. On se sert énormément et c'est toujours un pion qui va faire une percée et ouvrir une colonne pratiquement. Ou un cavalier qui réussit à s'introduire. Enfin, les pièces n'ont que peu à voir. Elles jouent derrière et maintenant on va voir un centre ouvert. Alors, par centre ouvert, ben, on va voir ce qu'on entend. On va commencer à jouer une partie qui s'est jouée à Bled en 1959 entre Tal et Smyslov. Il faut voir que Smyslov a été le septième champion du monde parce qu'il a détrôné Botvinnik. Et puis Botvinnik l'a rebattu dans la foulée un an plus tard en ayant son match revanche. Et là, à Bled, c'est le match des candidats. C'est-à-dire, c'est un match qui doit désigner, à la fin, celui qui sera candidat pour affronter le champion du monde. C'est-à-dire Botvinnik. Et ben, Tal et Smyslov se rencontrent lors de cette partie. Voilà. Je vous dirai le résultat à la fin, enfin, ce qui s'est passé. Ah! Donc, la partie se joue entre Tal et Smyslov à Bled, en 59. Et la partie commence avec un E4, Eva2, Eva4, César7, César6. C'est une carocane. Mais Tal ne va pas rentrer dans une véritable carocane au pur sens du terme. Il va jouer David 2, David 3. Et ce David 2, David 3, normalement, ça amène à d'autres variantes de la carocane. Les noirs jouent David 7, David 5. Là, les blancs sont obligés de faire un tout petit quelque chose pour éviter que les noirs ne prennent en Eva4. Et qu'en reprenant avec le pion David 3, bah, après il y a un échange des dames. David 8 mange dame David 1, déroquant. Maintenant. Pour éviter cet échange de dames, les blancs jouent cavalier, Béla 1, David 2. Donc, et les noirs vont jouer Eva 7, Eva 5. Alors là, c'est un peu spécial. Eva 7 et Eva 5 changent un peu la donne. D'habitude, ce n'est pas tout à fait ce qui se jouait. Mais on va continuer parce que ça fait partie d'une variante. En fait, disons qu'à l'époque, c'était un coup ambitieux qu'on jouait. C'était une variante à la mode à l'époque. Et c'était basé sur un engagement actif au centre. Or, jusqu'à cette partie contre Tal, ça se jouait. Après, on a vu que c'était un peu moins jouable, parce que Tal va trouver effectivement des arguments pour dire que ce n'est pas formidable. Donc, Tal joue cavalier, Gustave 1, Félix 3. Et bah, il faut bien le défendre, ce pion qui est attaqué. Donc on va les noirs vont le défendre en jouant cavalier, bela 8, David 7. Alors, et là, Tal va répondre. Alors, on dit qu'il faut jamais bouger deux fois la même pièce, mais là, Tal, il a vu une possibilité de s'emparer du centre à son avantage. Et il joue, en fait, David 3, David 4. Alors, ça peut paraître bizarre. Et en fait, il va utiliser le manque d'harmonie des pièces dans le rang ennemi. Mais ça provoque surtout une liquidation du centre. Et bah, les noirs jouent David 5, mange et va 4. Les blancs répondent cavalier David 2, mange et va 4. Puis, juste après, les noirs jouent Eva 5, mange David 4. Et les blancs reprennent avec la dame. C'est-à-dire, ils jouent dame, mange David 4. Alors, là, on s'aperçoit que tout d'un coup, ben, on se trouve dans là où on voulait en venir. On se trouve dans ce qu'on appelle un centre ouvert. Et dans l'idée du centre ouvert, les priorités changent par rapport à beaucoup de choses. La priorité importante, c'est le développement le plus rapide possible. Et justement, c'est un peu ce qui a permis à Tal de dire que bah, le cavalier qui est en David 7, maintenant, il empêche un peu le développement du fou César 8, de la dame, et enfin, ça bloque beaucoup de choses. Donc, bah, on va voir cavalier G passant F6, Gustave 8 passant Félix 6. Bah, alors, généralement, dans les centres ouverts, on va trouver, on trouve le plus souvent, des rocs opposés. Et bah, le fait de jouer fou Gustave 5, ça permet de développer ce fou très activement et, ben, et aussi de proposer un grand roc à suivre. Donc, maintenant, les noirs jouent fou Eva 7. Ou Félix 8, Eva 7. Et les blancs jouent grand roc. Alors, cavalier D6 était aussi une idée intéressante. Tout de suite, cavalier D6 échec. Avec fou, manche D6. Dame mange D6. Et dame, mais le problème, c'est qu'il y a dame E7. Avec échec, on échange les dames. Et grand roque à suivre de la part des blancs. C'est pas tout à fait mauvais. Mais Tal n'est pas du genre à liquider ses pièces trop rapidement. Il a plutôt des ambitions d'attaque. Il faut voir que Tal n'était pas donné vainqueur sur ce tournoi-là, hein, loin de là même. À l'époque, on parlait plus de sa diabolique chance qu'il avait, parce qu'il gagnait beaucoup de parties qu'il n'aurait normalement pas dû gagner, parce que ses sacrifices n'étaient pas très corrects. Et bon, ça faisait beaucoup de chou blanc, mais ça, il en jouait, il adorait jouer avec ça d'ailleurs. Il aimait bien qu'on dise qu'il avait une chance diabolique. On en est à grand roc. Les noirs, eux, font le roc aussi. Et maintenant, par contre, cavalier D6, c'est pas inintéressant. Parce qu'il n'y a plus la possibilité d'échanger les dames. Donc, Tal joue cavalier, Eva 4, David 6. Les noirs vont plutôt jouer dame Anna 5. Attaquant le pion qui est un 1 à 2. Les blancs défendent avec un coup de développement. Fou, Félix 1, César 4. Et c'est là où on s'aperçoit que la stratégie des noirs a été couronnée de succès. Puisque tout d'un coup, le développement des blancs est fini. Ce qui n'est pas tout à fait le cas du développement des blancs. Seulement, en regardant bien, ça permet un petit contre-jeu de la part des noirs. Et c'est un peu le même contre-jeu qu'il y a quand on joue la Méran. Il y a Bela 7, Bela 5. C'est un coup naturel, normal. Alors, par contre, on ne peut pas jouer. Alors, on peut se dire, il suffit de ramener le fou en Bela 3, par exemple. Mais ce n'est pas jouable. Parce qu'il y a César 5 qui suivrait, puis César 4 qui emprisonnerait le fou. Donc on ne peut pas s'amuser à jouer Bela 3. Les noirs vont jouer. C'est au blanc, oui, pardon. Les blancs, en fait, vont jouer fou, Gustave 5, David 2. On laisse notre fou en prise, mais on attaque la dame. On attaque la dame qui est en Anna 5. Donc elle est obligée de bouger, notre menace étant quand même un peu plus forte. Les noirs vont répondre par dame Anna 6. Alors, ils auraient pu répondre par dame C7, mais dame C7, ça permettait aux blancs de sacrifier le fou en Félix 7 et d'avoir une suite très très active. On reviendra dans la position des pièces. Donc, en fait, sur dame César 7, il y avait fou César 4, mange Félix 7. Tour, mange Félix 7. Ça n'a aucun sens sans ça. Cavalier mange Félix 7 et roi mange Félix 7. Roi mange Félix 7 et on voit le coup suivant, c'est le coup suivant est naturel. Cavalier Gustave 5 échec. Roi passe en Gustave 8. Maintenant, ben, on cherche les cibles, on cherche les pièces isolées seules. Tour H passe en F1. On attaque le fou qui est en F7. Le cavalier David 7 va en Félix 8, protégeant de la sorte la dame, avec la dame le fou. Les blancs jouent fou, David 2, Félix 4. La dame se réfugie en Béla 7. On joue fou, David 6. Juste après. Et là, la position est meilleure pour les blancs qui se sont emparés de deux colonnes, qui ont leurs pièces bien mieux placées au centre. Tout va bien pour eux. Mais c'est qu'une évaluation en disant c'est un plus, un léger plus. Maintenant, je vous redonne la position après Dame 6. Alors, on a un roi blanc en César 1, une tour blanche en David 1 et une tour blanche en Hector 1. On a A2, Anna 2, les pions en Anna 2, Béla 2, César 2. On a un fou en David 2. On a les pions en Félix 2, Gustave 2, Hector 2, qui n'ont pas bougé. On a le cavalier qui est en Félix 3. Le fou blanc qui est en César 4. La dame blanche qui est en David 4. Et un cavalier restant qui se trouve en David 6. Pour les noirs, on a, je pars par la dernière rangée, on a une tour en A8, un fou en César 8, une tour en Félix 8 et un roi en Gustave 8. On a un pion en A7, un cavalier en David 7, un fou en Eva 7 et trois pions en Félix 7, Gustave 7, Hector 7. On a la dame qui est en Anna 6, un pion en César 6, un cavalier en Félix 6 et un pion en Béla 5. Voilà. Alors, maintenant, notre fou est toujours attaqué. Mais il y a encore un moyen de retarder le moment de le retirer. Et les blancs jouent cavalier, David 6, passe en Félix 5. Alors là, il commence à devenir un peu visible que les blancs cherchent à monter une attaque sur le roc ennemi. On vise déjà la case Gustave 7. Là, le fou va être obligé de bouger. Et comme il n'a qu'une case pour vraiment bouger, il y va. Il joue fou David 8. Alors effectivement, certains me diront, il y avait la case en César V. Mais si le fou va en César V, il perd la vue sur le cavalier en Phénix 6. Et après Dame Hector 4, il mange le fou et on joue fou César 3, ce qui met une pression terrible sur le cavalier noir. Sur le cavalier Phénix 6. Donc, fou David 8 pour continuer à surveiller ce cavalier en Phénix 6. Dame Hector 4. C'est ce que vont jouer les blancs. Alors, sur l'ouvrage de Kasparov, My Great Predecessors, c'est peut-être le seul qui analyse correctement c'est le seul d'ailleurs que j'ai trouvé qui analyse correctement la solution, qui analyse correctement ce qui vient de se passer. Les blancs sont en train de sacrifier un fou. Mais le problème, c'est que ce n'est pas un sacrifice, c'est encore un sacrifice à la taille. C'est un sacrifice intuitif. Il n'y a pas de calcul qui puisse justifier un tel sacrifice. C'est un sacrifice intuitif. Tal, en fait, il espère monter rapidement une attaque sur le roi adverse. Et pour ça, il donne son fou blanc, mais il gagne des tempos. Il gagne des temps d'attaque. Alors il faut voir que pour l'instant, si on regarde un petit peu la position des noirs, ce serait presque à dire que Tal aurait... Peut-être... C'est là où c'est intuitif. C'est on s'aperçoit que le fou qui est en César 8 ne joue pas vraiment. La tour qui est en 1 à 8 n'est toujours pas là. Et tous ces temps qu'on peut gagner, on peut les mener vers une attaque. Et c'est exactement ce qu'est en train de faire Tal. Donc, il vient de jouer le Dame H4. Dame va de David 4 en Hector 4. Béla 5 mange César 4. Alors maintenant, il faut mettre un peu de pression sur le roi adverse, et ça, on peut le faire rapidement. Avec Dame, Hector 4, Gustave 5. On menace tout bêtement un mat en 5 coups, en un coup. Alors, et c'est là où, justement, c'est que cette position est connue, c'est... Est-ce que vraiment, est-ce que t'as la raison? Et est-ce que les noirs peuvent défendre? Et les noirs vont commencer par bien défendre. Ils vont jouer cavalier, Phénix 6, Hector 5. On en est à cavalier. Smyslov rend la pièce en espérant que si Dame prend en Hector 5, il y a cavalier F6, cavalier David 7, Phénix 6 qui va suivre, et puis le fou, on pourra échanger le fou contre le cavalier, qui est en Phénix 5, et on va amoindrir l'attaque, surtout qu'on a une pièce de plus, tous les échanges nous arrangent. Donc Smyslov n'a pas tort, c'est la bonne idée. on a un avantage, tous les échanges, on a un avantage de pièces, tous les échanges nous arrangent. Mais c'est pas tout à fait du goût du Tal, de Tal, qui joue cavalier, Félix 5, passant Hector 6, échec. On peut pas manger. Il n'y a qu'une solution, c'est de jouer roi Gustave 8, Hector 8. Et maintenant, Tal veut bien reprendre, veut bien prendre la pièce. Donc Tal reprend en jouant dame. Mange Hector 5. Les noirs en profitent pour faire dame mange Anna 2. Et les blancs poursuivent leur menace en jouant fou David 2, César 3. C'est le but qu'avait Tal dès le départ, c'est de monter une attaque avec ce fou en César 3. Maintenant, là, les blancs vont se tromper. Les noirs vont se tromper. Ils vont permettre une combinaison, et Tal ne les ratait pas beaucoup, beaucoup. En fait, il aurait fallu jouer fou pour vraiment contrer ce qui va se passer. Il aurait fallu jouer fou David 8, Félix 6. Pour contrer ce fou sur la grande diagonale, et échanger ce fou, d'ailleurs, si on peut. Et là, en fait, les noirs vont jouer cavalier Félix 6. Cavalier David 7, Félix 6. Alors, dans beaucoup de livres, ça ne mérite pas de trop de commentaires. Chez Kasparov, ça vaut 2 points d'interrogation. Alors, il faut dire, c'est 2 points d'interrogation, ça veut dire que c'est un coup perdant, immédiatement. Et effectivement, là, il y a une petite combinaison assez intéressante. Alors, je vous explique la combinaison, elle commence très simplement. Je joue dame, Hector 5, mange, Félix 7. Ah ben... Le problème, c'est qu'effectivement, il y a la tour. Mais la tour ne peut pas manger. Parce que... Alors, si on fait tour mange F7, si on fait tour mange F7, il y a tour mange David 8 avec échec. Alors, soit on ramène la tour, et puis ça fait tour manche Félix 8, échec, puis cavalier Félix Gustave 8 de la part des noirs, on mangera le cavalier, ça fera mat. Soit il mange, il y a tour manche tour D1 manche David 8, échec, cavalier passant David 7, passant Gustave 8, pardon, cavalier Félix 6 passant Gustave 8 pour parer l'échec. Et maintenant, cavalier H6 mange Félix 7, échec, et mat à l'étouffer. Donc, elle est un peu taboue, la dame. Hein. On ne peut pas trop la prendre. À partir de là, les noirs pensent avoir trouvé une solution qui est de jouer dame à 1. Et effectivement, la seule case de fuite du roi blanc, elle se trouve en D2 et elle coupe la colonne de la tour. Donc il n'y a plus les menaces de mat. Donc, roi passe en D2, tour mange Félix 7. Il y a eu cavalier, prend Félix 7 avec échec au roi. Mm-hmm. y a ensuite roi Gustave VIII, forcé. Tour mange Anna 1. Roi mange Félix 7. On s'aperçoit que pour l'instant, les noirs ont récupéré une qualité. Les blancs, je veux dire, ont récupéré une qualité. Maintenant, il y a cavalier, Félix 3, Eva 5, échec. Roi, Eva 6. Cavalier mange César 6. Cavalier Eva 4, échec. Les blancs jouent roi David 2, Eva 3. Les noirs jouent fou, David 8, Bella 6, échec. Et les blancs répondent par fou, César 3, David 4. Et là, il n'y a vraiment plus de solution. Ils ont un... Le cavalier est attaqué. Il y a plein de choses qui sont plus ou moins en l'air. Et la deuxième tour va venir en jeu très très rapidement. Et finir par faire la décision.
Pourquoi les noirs, ils n'ont pas pris le cavalier Eva 4 au lieu de faire fou David 4 ?
Au lieu de faire fou David 4 ? Alors, parce que
les
ça...
Ils ont pas pris, les blancs, ils n'ont pas pris le cavalier.
Parce que là, la position est perdue maintenant. Si les noirs... les noirs ne peuvent pas prendre le fou. On est d'accord ? S'ils prennent le fou, on reprend avec le cavalier, et puis il y aura échec. Et sans ça, tout tombe quand même. Il y aura tour HE1, si jamais il y a cavalier C5, par exemple. Tour HE1, et ça finit, il n'y a plus aucune menace noire. Et la qualité de plus, ça va se la qualité et le pion de plus vont faire la différence à ce niveau-là. Voilà. En tout cas, Smyslov abandonne là. Alors, il faut voir que cette partie, c'est amusant parce qu'elle a eu le prix de la plus belle partie du tournoi à Bled. Et par contre, elle a été très très contestée par la suite. Il y a eu pas mal de gens qui ont dit « Est-ce que le sacrifice est vraiment viable ?» C'est toujours du tal. Voilà. Mais bon, sur l'échiquier, tal, il fallait quand même déjouer ses sacrifices un peu mieux que ça. Et ça montre surtout quelque chose, c'est que Tal est un joueur qui était un peu sans concession. L'important pour lui, c'est ce que disait Fischer de Tal. Tal ne cherche pas forcément à gagner, il cherche surtout à gagner avec brio. C'est-à-dire qu'un gain avec peu de... Ce serait pas drôle pour lui. Il faut vraiment qu'il gagne avec du... Avec du panache. Voilà. Donc, mais surtout, ce qui est à noter, c'est ce qu'on disait au sujet des centres. On a vu la dernière fois un centre qui était fermé et où tout était bloqué, où tout était lourd, pesant, où on avait de lentes manœuvres qui se passaient derrière les barrières de pions. Et ça, y a des joueurs qui aiment, des joueurs comme Grigori, qui sont spécialistes de ce genre de jeu. Et Petrosian aussi, adorait ce genre de jeu. Et par contre, il y a ces centres ouverts. Et là, tout d'un coup, on a vu une chose qui est phénoménale, c'est que ce n'est plus un jeu de pions. Les pions ne comptent plus pratiquement là-dedans. On a vu, ce ne sont pas des mouvements de pions qui font l'histoire. Ce sont que des mouvements de pièces. Toutes les pièces ont une liberté immense. C'est-à-dire que elles ont les fous en leur diagonale, les tours disposent de colonnes au centre très, très puissantes. Et à partir de là, c'est surtout un jeu d'attaque. Alors très souvent, effectivement, pour amplifier ce jeu d'attaque, il y a souvent un roc opposé. Et où toutes les pièces vont donner leur pleine puissance. Voilà. Donc ce sont les jeux à centre ouvert. Où justement, les pièces lourdes, on la part belle. Les fous, on la part belle. Pratiquement toutes les pièces. Et ce qui est important à retenir dans les jeux à centre ouvert, c'est qu'il y a un élément qui prime par-dessus pratiquement tout le reste, c'est le développement. Un développement rapide. Il n'est pas rare d'ailleurs que dans ces jeux à centre ouvert, on sacrifie un pion sans aucun problème pour accélérer le développement. C'est pour ça que les jeux à centre ouvert, c'est souvent issu de parties telles que des gambits. Voilà, genre le gambit roi donne des jeux à centre ouvert.